من قدار نار ديته تقدي شط البحور يا وعدي حببنا الكل سهار على نغي من قدار النار ديته تقدي ندى الشوق فيه هدر يا تولي هيف السر بها سلف بالحظة نار بايتا تقدي نار بايتا تقدي شط البحور يا وعدي حبابنا الكل سهار على نغايم الجيتار نار بايتا تقدي شط البحور يا وعدي حبابنا الكل سهار على نغايم الجيتار نار بايتا تقدي ودان علمي مستخبى منذ الفجواب يعضى بنجو كمان شاهد تربوك وعود طار الشعبي بها الفخر والقبحي فيه إسرار فيه الخلوي ويبربر محلاها قعدة في الفار النار دايتات قديك النار بيتات قديك شط البحور يا وعدي حبابنا الكل سهر على نغايم القيثار نار بيتات قديم شط البحور يا وعدي حبابنا الكل سهر على نغايم القيثار نار بيتات
Bonsoir et bienvenue à l'émission Taxi Maghreb, une émission qui vous vient une semaine sur deux sur les ondes de Radio Centre-Ville. Et avec vous au micro, comme d'habitude, Lamine et Samir. Bonsoir alaikum, marhaba bikoum ma'ana fi l'émission Taxi Maghreb, une émission donc qui vous est présentée sur les endroits du centre-ville, une semaine sur deux, Samir et Lamine. Samir, bonsoir.
Bonsoir Lamine, bonsoir chers amis auditeurs.
C'est le printemps Samir.
Ah oui, franchement, mais moi je l'ai commencé par une petite grippe, mais bon, je laser.
Eh bien, ce soir à Taxi Maghreb, on vous propose un sujet, mais le plus important, c'est l'invité, un invité d'honneur. Nous avons le plaisir à Taxi Maghreb de recevoir une grande personnalité québécoise, bien qu'elle ait une volonté de vouloir l'écarter de la scène médiatique au Québec, mais on peut dire qu'une grande personnalité québécoise, un intellectuel, professeur Omar Aktouf, qui aujourd'hui sera notre invité, et avec lequel on va essayer de parler de plusieurs sujets, entre autres la régression, la crise économique qui ont vu au niveau planétaire. On parlera bien sûr des élections américaines et on parlera surtout de la question de la discrimination, de la situation de la communauté maghrébine, des immigrants en général. Donc vous êtes bien à l'écoute de l'émission Taxi Maghreb, restez avec nous parce que l'émission va rester avec vous aussi jusqu'à minuit. Et on y va en musique avec Hasni Laramo. We'll be right back. Bienvenue à l'émission Taxi Maghreb et comme on a déjà mentionné au début de notre émission, donc nous recevons ce soir M. Omar Aktouf qui sera avec nous donc sur les ondes de Radio Centre-Ville et aussi qui sera avec vous dans le 514-495-2597. Et pour commencer, professeur Omar Aktouf, bienvenue à l'émission Taxi Maghreb.
Avec grand plaisir, merci beaucoup.
On va commencer par, on peut dire par la fin, la question que je voudrais vous poser au début de cette émission, c'est est-ce que Monsieur professeur Omar Aktouf, professeur à HEC, renommée mondiale au niveau de l'économie, au niveau du management, vit encore une censure médiatique au Québec et au Canada et en Amérique du Nord?
Et oui, malheureusement, plus que jamais, depuis que j'ai pris les positions que l'on connaît, je suppose, puisque ça a été publié à l'époque dans certains journaux, depuis le 11 septembre 2001, il y a des choses, comme dit Dieu donné, auxquelles il faut pas toucher. Alors, dès qu'on touche au mensonge de la Maison Blanche et aux actions plus que de crimes de guerre d'un État comme l'État israélien, ben on est automatiquement taxé d'antisémites, de pro-terroristes, de ce que certains médias ne sont pas gênés d'écrire. Quand j'ai écrit, par exemple, en 2004, juillet 2004, quand une paranoïa s'est emparée du Canada après les attentats de Londres et d'Espagne, il y a eu une paranoïa ici disant qu'il fallait mettre des caméras partout, dans les métros, qu'il allait y avoir des attentats au Canada. J'ai publié deux articles dans Le Devoir et dans la presse disant que le Canada n'avait rien à craindre des terroristes si le Canada garde sa position, la position qu'avait Jean Chrétien, qui était une position, à mon avis, très noble et très juste sur ce point-là, au moins, de ne pas suivre l'aventurisme américain. Eh bien, j'avais écrit que si le Canada s'abstenait de suivre l'aventurisme américain, comme l'ont fait Aznar d'Espagne et Blair de Grande-Bretagne, eh bien, le Canada n'avait rien à craindre. Et j'ai reçu un tollé de réactions hostiles et insultantes, me traitant de tout. Alors, dans les journaux sionistes de type Tribune juive ou de journal du Congrès juif anglophone aussi bien que francophone, etc., ça ne m'étonnait pas. Mais que ça vienne de journaux, disons, québécois, où on m'a traité carrément de branche d'Al-Qaïda, ou presque, pour avoir dit que le Canada n'avait rien à craindre s'il ne s'amusait pas à suivre les États-Unis, eh bien, depuis, j'ai été effectivement totalement ostracisé. Ça avait commencé depuis 2001, parce que j'ai pris des positions très claires, aussi bien à la télévision que par écrit, disant que Washington nous racontait des histoires et que leur version du 11 septembre 2001 ne tenait absolument pas la route. Mais à partir de cet article sur le fait que le Canada devait se désolidariser, ou en tout cas se distinguer de la politique américaine et anglaise, eh bien, j'ai été carrément, totalement ostracisé, oui.
Professeur Omar Aktouf, et est-ce que après ça vous avez essayé de publier et ça n'est pas passé dans les journaux ou...
Oui, j'ai envoyé des articles, et jamais, non, on me répond même pas, ou on me répond que ça n'intéresse pas les lecteurs, ou dernièrement encore, là, ce mois-ci, coup sur coup, deux articles, un sur sur les 935 mensonges de la Maison Blanche et les 262 mensonges de Bush pour attaquer l'Irak et l'Afghanistan. Et aussi sur le budget de Madame Jérôme Forger, un article que j'ai coécrit avec un professeur de finance et de comptabilité de l'UQAM, montrant que si le gouvernement du Québec allait chercher l'argent là où il est, c'est-à-dire dans les évasions fiscales, c'est-à-dire dans les poches des riches qui ne payent pas d'impôts, c'est-à-dire dans les profits des entreprises qui ne payent pas d'impôts, c'est-à-dire dans les cadeaux que le régime fait à des entreprises et à des hommes d'affaires et à des gros riches milliards qui alimentent leur caisse électorale, on pourrait aller chercher jusqu'à 40% du budget du Québec pour la santé, pour l'éducation, etc., etc. Eh bien, cet article n'a été publié nulle part.
Ce qui est étonnant aussi, c'est que cette censure n'a pas seulement touché les médias et les médias lourds, c'est que même en termes de conférences, M. Omar Aktouf, en tant que professeur universitaire, une référence dans son domaine au Québec, qu'il soit censuré, ça a étonné beaucoup de monde. On sait très bien que depuis très longtemps, vous n'avez pas eu l'occasion de donner une conférence. Heureusement que la semaine prochaine, donc jeudi prochain, 3 avril, vous allez donner une conférence à HEC, donc dans l'amphithéâtre IBM, sur bien sûr HEC, sur Côte-Sainte-Catherine, 3000 Côte-Sainte-Catherine, et ça va se dérouler donc à partir de midi, je pense.
À midi, oui.
Oui, à midi. Mais comment expliquer aussi que cette censure a touché aussi le milieu universitaire en termes de conférences ?
Écoutez, c'est tout simplement l'influence de lobbies très puissants, de lobbies qui tiennent les journaux, qui tiennent les médias, qui tiennent l'argent, qui subventionnent, qui financent, et ces lobbies sont présents y compris dans les universités, dans les milieux intellectuels. Et les milieux des affaires aussi, qu'on le veuille ou non, sont très frileux par rapport à des idées, qu'on qualifie d'anti-américaines, parce que je suis pas du tout anti-américain. Moi, je suis pas contre le peuple américain. Je suis anti-Washington. Je suis contre la politique de Bush, c'est tout. Mais on me qualifie d'anti-américain, donc anti-américain ça veut dire anticapitaliste. Anticapitaliste, dont en plus que je me suis présenté sous la bannière de parti de gauche trois fois à des élections comme candidat, donc l'UFP et puis le parti néo-démocrate au niveau fédéral. Et tout ça, bien entendu, ça rend les milieux d'affaires très frileux. Et puis surtout quand il y a des interventions qui viennent de certains milieux qui disent à ces milieux d'affaires, attention, vous allez vous faire des conférences même sur l'économie ou sur la gestion, etc., par quelqu'un qui est antisémite, qui est anti-américain, qui est pro-terroriste, qui est... C'est arrivé jusqu'au Brésil. On m'a même fait annuler des contrats que j'avais avec des institutions jusqu'au Brésil en faisant partir des messages d'ici, du Québec, disant aux gens qui me contractaient, qui m'engageaient, qu'il fallait qu'ils fassent attention parce que j'étais un anarchiste, communiste, antisémite, pro-terroriste, etc. Enfin, ça va très loin. Ça va très loin.
En parlant des États-Unis, de la politique américaine, actuellement, les manchettes des médias financiers et économiques nous annoncent une grande crise, une crise qui est associée à première vue à la crise des hypothèques qui ont été données aux États-Unis. Est-ce que vous pensez réellement qu'on fait face à une crise ? Est-ce que réellement la source de la crise, c'est la distribution d'hypothèques à des personnes qui réellement n'avaient pas la capacité de remboursement ? Ou est-ce que le problème est beaucoup plus profond, beaucoup plus complexe que ça?
Oh non, le problème est beaucoup plus profond, il est beaucoup plus complexe. Quand j'ai commencé à écrire mon livre « La stratégie de l'autruche, post-globalisation, rationalité économique et management », j'avais commencé à l'écrire milieu des années 95, il est sorti en 2002, donc ça m'a pris des années à finir cette analyse de pourquoi précisément le capitalisme est face à un mur depuis à peu près le milieu des années 85, c'est-à-dire qu'on, pardon, milieu des années 80, oui, donc 85, c'est-à-dire depuis qu'on a commencé à parler de mondialisation, le capitalisme financier, parce qu'il y a deux capitalismes, le financier, c'est-à-dire les États-Unis, l'Angleterre, le Canada, la France, la Suisse, grosso modo, il y a un autre capitalisme, le capitalisme du Japon, de la Corée du Sud, de l'Allemagne, de la Scandinavie, qui n'est pas du tout le même. Donc il faut pas tout mélanger. Mais ce capitalisme-là, qui est le capitalisme financier, c'est-à-dire qui ne pense qu'à une chose, c'est-à-dire tout transformer en argent à tout prix, n'importe quand. Donc un arbre, un poisson, je sais pas moi, n'importe quelle créature, n'importe quelle ressource, n'importe quelle création de la nature n'a de valeur que si elle est transformée en argent. Donc il faut la transformer en dollars, le poisson, les arbres, etc. Et ils veulent le faire au maximum. Mais ce que j'écrivais déjà dans ce livre, c'est qu'on ne peut pas faire le maximum de profit avec le maximum d'arbres ou le maximum de poissons ou le maximum de n'importe quoi, parce que la terre ne donne le maximum de rien. La terre donne ce qu'elle peut. La preuve, c'est que par exemple aujourd'hui, il n'y a plus de perchotte dans le lac Saint-Pierre. Et on est en train de se demander comment faire pour sauver la perchotte du lac Saint-Pierre et du Saint-Laurent, etc. Ben, c'est tout simplement parce que cette logique du capitalisme qui est financière est une logique qui tient ses racines dans des mécanismes et des façons de faire très anciennes et très complexes. Alors ce qui arrive avec les subprimes et la crise donc de ces hypothèques et de ces papiers commerciaux appuyés sur des actifs hypothécaires, tout ça, ça n'est que la pointe de l'iceberg. Les 4/5 de l'iceberg, c'est toute l'illusion de pouvoir accumuler par la spéculation et par des manigances, par des traficotages, par des montages financiers extrêmement complexes, extrêmement tordus, l'illusion de pouvoir accumuler des montagnes infinies de numéraires. Et ça, ben, ça finit par s'écrouler. C'est comme si vous mettiez des cartes les unes sur les autres. Vous pouvez faire un château de cartes de 50 cm de haut, mais si vous voulez faire un château de cartes de 30 km de haut, ben, il s'écroule, et quand il s'écroule, ça fait mal beaucoup plus et partout.
Mais par rapport à la crise, est-ce que réellement on est en face d'une crise actuellement?
Ah oui, absolument. Ah oui, oui. D'ailleurs, dans ce livre, je le disais que déjà, on était en récession, et cette récession, c'est pas 2001 qu'il a commencé, c'est une récession qui avait commencé déjà milieu des années 90, quand la logique financière a dépassé la logique industrielle. Mmh. C'est-à-dire que les dirigeants des entreprises qui, par exemple, avaient pour vocation de fabriquer des téléphones, des automobiles, du bois, des maisons, des routes, c'est-à-dire des utilités, comme on les appelle, les utilités de l'économie réelle. Eh bien, ils se sont trouvés sous la coupe des financiers qui, devant le ralentissement de l'accroissement de l'économie réelle, parce qu'on ne pouvait plus aller chercher des arbres plus que la forêt n'en donne, ou des poissons plus que l'océan n'en donne, donc les entreprises, les entrepreneurs se sont trouvés à devoir multiplier l'argent par l'argent. Donc le fabricant d'automobile n'était plus celui qui devait faire la meilleure automobile possible pour vendre des automobiles et faire de l'argent avec des automobiles qui roulent et qui rendent service à des citoyens, mais devant une autre logique qui était comment faire sortir de l'automobile le maximum de profit en y mettant le minimum d'investissement. Alors on s'est mis à couper dans la formation des employés, à couper dans la qualification des employés parce que c'était considéré comme des dépenses, à couper dans la recherche et développement technologique parce que c'était considéré comme des dépenses utiles, à couper évidemment dans les salaires, à couper dans l'emploi, à couper, tout ça dans la logique suivante, c'est-à-dire que plus on coupe les coûts, plus évidemment les profits augmentent. Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'en coupant les coûts, on coupe les sources du profit lui-même. Et voilà comment cette logique financière du capitalisme est maintenant aujourd'hui dans une phase où les subprimes ne sont que la partie visible de l'iceberg, quoi.
Professeur Amalaktoufa, actuellement les milieux financiers nous rassurent et nous assurent que ce n'est pas la crise de 1929 actuellement. Est-ce qu'on en est?
Ah ben écoutez, bien sûr, ils peuvent très bien dire que ce n'est pas la crise de 1929, parce que si vous voyez, par exemple, je ne sais pas moi, le niveau de vie des États-Unis, laissons le Canada de côté, c'est un problème, mais le niveau de vie des États-Unis se maintient tout simplement parce qu'ils sont en train de surdétruire l'Afghanistan et l'Irak, et de surexploiter l'Afrique, de surexploiter les Philippines, de surexploiter la Chine. Quand on nous dit les produits chinois nous concurrencent, mais on se moque du monde. Ce ne sont pas les Chinois qui nous concurrencent. Ces produits chinois nous arrivent sous la marque Walmart, sous la marque Toys R Us, sous la marque Mattel, sous la marque etc. Et si on regarde à l'échelle mondiale, dans le commerce mondial, sur 100 dollars de commerce mondialisé, il n'y a que 3 dollars qui restent aux pays du tiers-monde, incluant la Chine. Alors il faut se demander, quand un produit chinois arrive ici, il a coûté en Chine 50 cents, tout compris,
oui.
50 centimes, tout compris, le matériel, les ressources, la main d'œuvre, le transport, tout. Il arrive ici, il est vendu 40-50 dollars. Alors, qui nous concurrence? Ce sont nos propres multinationales. Je suis désolé, mais une compagnie comme Power Corporation détient 35% dans Walmart China. Et ce 35% de Walmart China, quand vous allez acheter chez Walmart des produits de n'importe quoi, il y a 35% qui vont de ce 97% de 97 dollars sur 100 qui vont dans les poches de Power Corporation. Donc ce ne sont pas les Chinois qui nous concurrencent, je suis désolé, c'est Power Corporation, c'est Walmart, c'est Kmart, c'est Bloomingdale, c'est etc. Alors voilà comment on trompe les gens.
Professeur Aktouf, actuellement avec l'idée de la fin de l'histoire et le triomphe du capitalisme, est-ce qu'il y a une alternative de gauche, une alternative démocratique palpable pour
L'alternative, bien sûr, oui, elle existe, mais tout le monde la qualifie d'utopie. L'alternative existe, c'est les pays scandinaves, c'est l'Allemagne, c'est le Japon, c'est la Corée, ces pays-là ont de redistribution de revenus, des politiques de qualification de main-d'œuvre, des politiques de filets sociaux, de programmes sociaux, etc., qui font que l'économie est au service de la société, et non pas la société au service de l'économie, ou de la finance, ce qui est pire. Or ici, Canada et États-Unis, c'est la société au service de la finance. Et on nous fait confondre finance et économie. Or, la finance n'est pas l'économie, ça n'a rien à voir. À chaque fois que Wall Street augmente ses volumes de transactions, ce qu'on appelle le Dow Jones, etc., ou le TSI, ou tout ce que vous voulez, chaque fois que ça augmente, il faut comprendre que paradoxalement, dans la réalité, dans l'économie réelle, dans les commodités, dans les utilités réelles pour que les personnes vivent mieux, il y a diminution ou destruction. Parce que l'augmentation au niveau de la simple finance à la bourse, ce n'est que de l'argent électronique. Et cet argent électronique ne produit rien.
C'est virtuel.
C'est totalement virtuel. Alors, on nous dit, tiens, le Dow Jones, Wall Street, c'est, je sais pas moi...
Il a augmenté de temps.
Nous avons 1000 milliards de dollars de plus en un mois. Mais ce 1000 milliards de dollars ne représente ni chaise, ni fauteuil roulant, ni garderie, ni école, ni route, ni autoroute, ni médecin, ni infirmier, ni infirmière, rien du tout. Et cet argent sert à des gens super riches pour aller encore plus exploiter la nature et exploiter les pays du tiers-monde sans rien laisser derrière, sans aucune contrepartie.
Là, ça me vient à l'idée la question sur à propos de l'OMC. Ça, je saute un peu dans l'Organisation mondiale du commerce. Oui. Là, on trouve par exemple, si je prends l'exemple des pays du Maghreb, on est en train de nous vendre l'idée que si on rentre à l'OMC, ça va être une panacée pour notre économie. C'est quoi votre commentaire sur ça?
Alors les APE, etc. Oui, je connais. L'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, c'est l'officine de défense des intérêts des pays riches, point à la ligne. Si vous savez comment fonctionne, simplement de savoir comment fonctionne l'OMC, c'est suffisant pour comprendre. L'OMC est basée à Genève. Donc l'organigramme de l'OMC, c'est la secrétariat général qui est basé à Genève. Oui. C'est l'assemblée, c'est la réunion ministérielle tous les deux ans, donc les ministres du commerce des pays riches qui se réunissent. Et ce secrétariat général est des tables de négociation permanentes à Genève. Alors imaginez qui peut maintenir en permanence une armée d'experts à Genève. À Genève, c'est la ville, l'une des villes les plus chères du monde. Alors si un pays comme le Bénin met un seul économiste en permanence à Genève, c'est 10% du budget du Bénin.
Ah, ok.
C'est impossible. Donc, vous savez, l'Afrique, toute l'Afrique se faisait représenter à un moment donné, je crois, par 4 ou 5 économistes à Genève qui étaient sénégalais, si j'ai bonne mémoire, un autre camerounais, enfin peu importe. 4 pour représenter l'ensemble de l'Afrique, 4 ou 5. Or, il y a 200 ou 250 tables de négociation. Il y a l'eau, il y a le blé, il y a le sorgho, il y a le michier, il y a le houblon, il y a 200, 250 tables de négociation sur tout, le bois, etc., la mer.
C'est un peu comme un cinéma multiplex.
Mais bien sûr, un cinéma multiplex. Oui, alors il y a justement, il y avait quelqu'un qui avait un Africain qui avait donné cet exemple. C'est comme un cinéma multiplex où il y a 90 films, vous êtes supposé assister aux 90 films en même temps.
Ouais.
Alors l'OMC a inventé un truc très mais vraiment extrêmement cynique, c'est ce qu'on appelle le consensus négatif. Alors s'il y a une table de négociation sur l'eau par exemple, et vous, représentant de l'Algérie, ben, vous n'êtes pas à la table de négociation sur l'eau, parce que vous ne pouvez pas. Vous êtes à une table de négociation sur le pétrole, par exemple, qui est plus importante pour l'Algérie.
Ouais.
Eh bien, si dans la table de négociation sur l'eau, il y a le Canada, il y a la France, il y a l'Angleterre, il y a le Pays de Galles, il y a l'Écosse, il y a la Suisse, il y a les États-Unis, hein, ils signent un accord. Et ils disent, bon, à partir de maintenant, l'eau, c'est une marchandise internationale, vendable, achetable, n'importe où, n'importe quand. Et vous, Algérie, vous n'êtes pas là, vous n'avez pas signé.
Oui.
Cameroun non plus, Togo non plus, Tunisie non plus, etc. Eh bien, le principe du consensus négatif, vous êtes considéré comme ayant ratifié l'accord, comme l'ayant signé. Et donc, demain, Nestlé se pointe chez vous et vous dit, on achète le lac de Médéa. Admettons qu'il y a un lac à Médéa. Et si vous dites non, l'OMC vous tombe dessus avec le chapitre 11. C'est-à-dire le chapitre de représailles. De représailles sur obstacle au libre commerce mondial. Alors voilà comment ça marche, l'OMC.
Est-ce que ça, c'est du néocolonialisme, en fin de compte?
Absolument, tout à fait. Et d'ailleurs, Joseph Stiglitz emploie le terme colonialisme, néocolonialisme, à tour de bras dans ses livres depuis 2001, depuis qu'il a eu le prix Nobel d'économie.
Excusez-moi, et comment expliquez-vous que ces idées sont bien véhiculées chez nous, dans les pays du Maghreb, où il n'y a pas de... On dirait qu'on n'a pas la possibilité d'analyser ce qui nous arrive en propagande.
Si ah oui, absolument, vous avez raison. C'est-à-dire que le contre-discours a été complètement invalidé, évacué, et surtout devenu objet de mépris. Maintenant, quiconque parle de Marx ou de Semiramine ou de Sergio Furtado ou de André Gunder Frank ou de René Dumont ou de, passe pour un imbécile. On va tout de suite lui dire mais le mur de Berlin est tombé en 89. C'est fini, réveille-toi. Alors donc maintenant, même pour faire carrière comme intellectuel, pour faire carrière comme professeur, pour faire carrière comme... Il faut tenir le discours néolibéral dominant. Sinon, vous êtes marginalisé, vous êtes foutu, vous êtes rejeté, vous êtes jeté, vous êtes... Et donc, voilà, alors les pouvoirs, autant intellectuels que politiques, sont totalement inféodé aujourd'hui au pouvoir corporatif qui nous impose le langage corporatif, c'est-à-dire le langage du marché. Tout doit être régulé par le marché et en dehors de la logique du marché, de raisonnement qui part du marché, vous êtes automatiquement invalidé, vous êtes automatiquement frappé de nullité dans votre discours et dans votre raisonnement, tout simplement. Et tout dernièrement, juste une petite anecdote très rapide, dans un colloque international où je soutenais le discours que j'ai toujours soutenu, et évidemment anti-marché, quoi, je suis totalement contre le fanatisme du marché, un économiste américain de renom, tout ça, se lève et me dit, mais monsieur, mais vous ne croyez pas au marché ? J'ai dit, monsieur, non, je suis athée.
C'est pas une religion.
Oui, j'ai pas de religion. Je suis désolé.
Merci.
Merci beaucoup, professeur Omar Aktoub. Je vous rappelle que ce soir, à Taxi Maghreb, on reçoit monsieur Omar Aktoub, professeur HEC. Il donnera une conférence le jeudi prochain, 3 avril, à partir de midi, à HEC au 3000 Côte-Sainte-Catherine à partir de midi, comme je l'ai mentionné. Et le sujet, ça va être Orient-Occident, entre choc et dialogue des civilisations, un voyage à travers une histoire mouvementée depuis le 13e siècle. Ça va se dérouler.
Depuis le 19e.
C'est ça, depuis le 19e siècle. Donc une conférence qui va donner à l'amphithéâtre IBM de HEC. On va prendre une petite pause publicitaire et on va revenir avec notre invité.
Lorsqu'on vous parle de l'Afrique, quelles images vous viennent en tête? Du soleil, une culture vivante, un cinéma unique? C'est ce que Vue d'Afrique vous offre avec Panafrica International. Du 10 au 20 avril, ouvrez-vous à différentes cultures grâce à 120 films sur l'Afrique présentés par des créateurs d'ici et d'ailleurs. Un rendez-vous pour toute génération et nationalité au cinéma Beaubien, du Parc, ONF et à la Cinémathèque québécoise. Vue d'Afrique présente Panafrica International du 10 au 20 avril. Soyez-y en grand nombre. Pour plus de détails, consultez le www.vuedafrique.org.
Vous êtes bien à l'écoute de l'émission Taxi Maghreb et comme on l'avait déjà mentionné, on reçoit aujourd'hui professeur Malak. Je vous rappelle que à partir de maintenant, vous pouvez nous appeler si vous voulez donc intervenir à notre émission au 514-495-2597. On va prendre une pause musicale avec Selim et le rythme Chaoui. Donc on y va avec la musique.
انا لساني يوزني اذا قال انا نعرف واش نهضر انا عشت غير شويه وشفت واش عاشت الرجال ومن هالدنيا كامله حفظت غير سطر ونعرف الحرام الحلال ونبين الابيض من الصفر وعندي الراجل كلمته راس المال ونيفولا طاحت تكسر موش اللي لابس سروال وغير ريحه معمر وكيف كيف عندي المراه بالفعال باللي تبكر باللي تسهر إلى في الصغر مازال الحال الريح يقيس كاع الشجر وإلى كبرت والنوار ذبال إلي قد تعاود روح حالة تتغفر ومش العيب اللي سقسي ويسال ربي سبحانه على المليح يدبر العيب اللي مدرق الشمس بالغربال هو يزيد الماء البحر أني سمعتكم واش يقول الفال الله يرحم الله يغفر
à l'écoute de l'émission Taxi Maghreb et ce soir on reçoit un professeur Omar Aktouf.
Lamine Mansouch, nous nos auditeurs sur internet de Calgary, l'Alberta.
Yeah, you're a young, leave it to me, yeah. Lisa, you're the man, you're the man.
émission Taxi Maghreb, comme on l'a déjà mentionné. Ce soir, on reçoit le professeur Malak Touf qui donnera une conférence jeudi prochain 3 avril à partir de midi au 3000 Côte Sainte-Catherine à l'amphithéâtre d'IBM de HEC. Et Samir, on va prendre un appel avant de revenir avec tes questions. Donc je vais prendre un appel. Rachid, bonsoir.
Oui, allô, bonsoir. C'est Monsieur Rachid Della, responsable du FLN Canada. Donc, ça me fait un grand plaisir d'avoir Monsieur Omar Aktou sur les ondes de la radio. Monsieur Aktou, j'ai une question très précise en tant qu'informaticien. Donc, quand on fait de l'intelligence artificielle, théorie des systèmes, tout ça, que pensez-vous de l'idée d'avoir une monnaie unique pour l'ensemble des pays de l'OPEP, s'il vous plaît? J'aimerais avoir votre point de vue en tant que spécialiste.
Merci beaucoup, Rachid, pour votre appel. Merci.
Mais est-ce que je dois répondre tout de suite ou
oui, bien sûr. Oui,
non, ah bon, allez, question par question, d'accord. Bien, c'est Rachid, bonsoir, merci de votre question. Donc, une monnaie unique pour l'OPEP.
C'est ça.
Je ne pense pas que ce soit la meilleure idée qui soit que de faire une monnaie unique juste pour des pays producteurs d'une denrée particulière qui est le pétrole. Mon avis, c'est que on devrait commencer région par région. C'est d'ailleurs une des choses sur lesquelles je travaille avec d'autres personnes en Amérique latine, c'est de commencer région par région à faire des échanges hors dollar, hors euro, hors toute forme de devise étrangère, internationale, de transfert et de transactions au niveau international. Et ensuite, penser à des systèmes monétaires régionaux. Par exemple, en ce moment, je travaille avec des groupes sur la possibilité de monnaie régionale de ce qu'on appelle le pacte andin élargi, c'est-à-dire les anciens pays du Mercosur, le Brésil, le Paraguay, l'Argentine, le Chili, etc. Et puis les pays donc andins comme la Bolivie, le Venezuela, un certain nombre de pays comme ça de plus au nord. Et ensuite penser à une monnaie plus élargie pour un ensemble de pays qui rentreraient dans une zone d'union économique, monétaire, fiscale, etc., etc. Un peu comme l'Union européenne. Mais tout ça se fait par petits pas. L'Union européenne s'est faite en plus de 60 ans. Et c'est pas encore terminé. Et la monnaie, ce n'est que l'aboutissement. Donc l'euro a été l'aboutissement d'une bonne cinquantaine d'années de petits pas qu'ont fait les pays européens. Alors c'est un peu ce qu'on devrait faire. Donc pour moi, on devrait commencer d'abord par l'Union du Maghreb. Qu'on commence par échanger entre nous, les 4-5 pays du Maghreb, un peu plus que 4% des échanges que nous faisons en ce moment. Et que nous les échangeons entre nous en dehors de l'euro, en dehors du dollar, sur des bases clearing par exemple, ce qu'on appelle compensation, sans monnaie, tant de litres ou d'hectolitres de barils de pétrole, pour tant d'hectolitres d'huile d'olive de Tunisie, ou je sais pas moi, de tonnes de mandarines du Maroc, etc. Et puis petit à petit songer à une monnaie régionale maghrébine, et ensuite, ben pourquoi pas, songer à une union économique qui irait du Maghreb jusqu'au Pakistan et qui ferait un peu le contrepoids ou le contre-pied de ce que rêve pour nous M. Bush, c'est-à-dire le grand Moyen-Orient sous la houlette de Washington. Alors voilà à mon avis ce qu'il faut faire. Et donc ma réponse est non. Une monnaie unique juste pour des pays producteurs d'une denrée particulière qui est le pétrole, les hydrocarbures, ça ne suffirait pas. Et puis ça ne toucherait que des pays qui sont très épars et qui donc par ailleurs seraient complètement séparés et en non-convergence.
Monsieur Malak Touf, vous avez mentionné à la fin de votre réponse la politique bouchienne ou américaine ou comment on peut l'appeler, et on vous a posé les premières questions par rapport à la crise mondiale actuelle. Est-ce que vous pensez que cette crise-là, parce que il y a quand même un élément à éclaircir, versus la politique de Bush depuis presque 8 ans, et le modèle néolibéral qui lui-même, d'après donc vos commentaires, est problématique. À quel niveau le changement de la présidence aux États-Unis pourra sauver la situation? On sait très bien aujourd'hui, on parle beaucoup du candidat donc démocrate qu'on peut, dépendamment est-ce qu'on veut lui donner une étiquette ou non, son nom varie dans le temps, mais Obama Barack, il y a beaucoup de gens qui pensent que s'il arrive à la présidence, il pourra changer les choses. Premièrement, est-ce qu'il y a un espoir qu'il arrive? Est-ce que réellement, par rapport à ses propositions, même dans un modèle néolibéral, en ayant quelqu'un président des États-Unis beaucoup plus modéré, les choses peut-être pourront s'améliorer, soit au niveau économique et même au niveau politique?
J'ai bien peur que non, parce que d'abord, le modèle néolibéral était un modèle voué à l'échec dès le départ. Le modèle néolibéral qui a démarré milieu des années 70, début des années 80, avec le Reaganisme, le Thatcherisme, etc. Ce modèle néolibéral s'est construit et s'est élaboré sur déjà un constat d'échec. C'était le constat d'échec de la régulation et de la mise en prospérité de l'économie mondiale par les institutions de Bretton Woods, c'est-à-dire le FMI, la Banque mondiale, l'ex-GATT devenu OMC, et donc qui ont été mis en place dès 45-46 pour justement faire en sorte que le monde prospère sans guerre. Or, ça a échoué. Donc le modèle néolibéral est parti sur un échec pour aller vers quelque chose qui serait une espèce de marché mondial complètement libre où les produits iraient de n'importe quel point du globe à n'importe quel autre, et donc tout ça était supposé faire le bonheur de tout le monde. Mais on a tout simplement oublié que cultiver des tomates à Tunis, par exemple, serait beaucoup moins rentable que d'acheter ces mêmes tomates amené à Tunis par une multinationale américaine quelconque, et ces tomates seraient cultivées en Amazonie ou au Venezuela ou n'importe quel autre coin du monde et débarqueraient à Tunis à un prix beaucoup plus bas que les tomates produites à Tunis même. Donc c'est un peu caricatural, mais c'est ça le néolibéralisme, malheureusement. Et on voit très bien aujourd'hui que c'est un échec lamentable. Et la preuve, c'est que le modèle des États-Unis, pour qu'il continue à survivre, il a besoin de devenir une économie de guerre permanente. Il entretient donc des zones de conflit depuis le Moyen-Orient, l'Afrique, jusqu'en Afghanistan, etc., l'Irak, et on connaît bien tout ça. Mais en plus, le néolibéralisme est déjà critiqué par ses propres tenants. Si vous avez suivi comme il faut, enfin disons attentivement, la campagne nord-américaine, c'est quand même ahurissant de voir les candidats rivaliser de promesses de revoir les bases de l'ALENA, c'est-à-dire du traité de libre-échange États-Unis, Canada, Mexique. Ils disent tous que ça n'a pas marché. Alors il y a plein de manifestations, par exemple l'Ohio, on est un très bon exemple, où Barack Obama a perdu les élections partielles là, de je sais pas comment on appelle ça, les primaires, oui, mais de
l'État,
de l'Ohio, oui, de l'État, et parce que l'Ohio a particulièrement souffert des délocalisations et de la perte de main d'œuvre, de salaire et d'emploi, etc., à cause de la mondialisation et de l'ALENA. Donc elle est remise en cause déjà maintenant par les candidats américains eux-mêmes. Ils rivalisent de qui va remettre en cause le plus cet accord. Alors pour revenir à Obama simplement, quoi qu'il arrive aux États-Unis, qui que ce soit, Obama, à mon avis, n'en a aucune chance. Les États-Unis ne sont pas du tout prêts à avoir un noir à la tête. Déjà qu'ils ne sont pas prêts à avoir une femme, vous vous rendez compte, un noir en plus, ce serait le comble. Non, ils sont pas prêts à ça. Et la preuve, c'est qu'on voit des journaux maintenant rajouter le deuxième prénom de Barack Obama, Hussein, qu'on a oublié, qui est Hussein. Alors maintenant, on voit Barack Hussein Obama, et je me demande s'ils ne vont pas ajouter sa dame, hein. Barack Hussein Saddam Obama, ça sera le comble.
Là, sûrement, avec Hussein, ça commence à être compliqué. Avec Saddam, je pense qu'il irait en prison.
Oui, oui, oui.
Samir, on va prendre juste quelques appels. Je pense que Rachid, tout à l'heure, on l'a coupé. Je vais donc reprendre Rachid rapidement. Allô, oui, bonsoir, Rachid.
Alors, dernière question, si je comprends bien, monsieur Omar Aktouf, vous épousez parfaitement un petit peu les lignes, les grandes lignes de l'opposition actuelle américaine, comme Lyndon LaRouche, un peu. Relativement au néolibéralisme.
Ah, bah oui, je suis farouchement, absolument, farouchement, bien que je ne partage pas toutes les solutions et les de monsieur LaRouche.
D'accord, écoutez, ce fut un grand plaisir de vous parler, monsieur Omar Aktouf. Merci, bonne soirée. Hein.
Merci beaucoup, Rachid.
C'est très gentil, hein, de votre part. Merci.
On va prendre Saïd. Bonsoir, Saïd.
Bonsoir.
Oui, vous êtes sur les
bonsoir, professeur.
Bonsoir.
Moi, personnellement, j'ai deux petites remarques. Et je tiens dès le départ à le souligner. Ce n'est pas des griefs que j'ai à l'encontre de vos positions, professeur.
Pas de problème.
C'est surtout des remarques.
Oui.
C'est-à-dire, bon, la première, c'est que, des positions semblables aux vôtres, on peut les lire, par exemple, que, ne serait-ce que dans le journal Alternative. C'est-à-dire, il y a pas mal de canaux, on peut, c'est-à-dire, bon, elles sont assez loin, bien sûr, des positions de LaRouche. C'est-à-dire, bon, LaRouche, à mon avis, c'est assez antisémite, comme, c'est-à-dire, les thèses qu'il présente.
Oui, bien c'est bien pour ça que je dis qu'il y a des bémols. Oui. Oui,
d'accord. Une autre chose, pour ce qui est de vos positions antilibérales, moi, elles me sont très très proches, sauf que là, je vais dire la vérité, c'est un petit grief à l'encontre justement de certaines positions, c'est que vous, par exemple, ok, vous, ce que vous prêchez ici par rapport à ce qui se passe au Canada, vous ne faites pas la même chose pour ce qui est, parce qu'on est algéro-canadien, donc par rapport à ce qui se passe en Algérie, dans le cadre du NEPAD, ne serait-ce que la corruption, vous savez très bien, le NEPAD, il boude carrément la convention contre la corruption. Là, on ne montre pas du doigt les mots qu'on a, MAUX, bien sûr, qu'on a en Algérie. J'ouvre ici une parenthèse pour souligner que vous avez quand même, disons, soutenu le RND ici au Canada, à Montréal, alors que le RND est derrière les privatisations en Algérie. On a bradé l'économie algérienne. Vous le savez très bien, professeur.
Oui, j'ai soutenu le RND.
ça a été peut-être juste un intermède dans votre carrière.
Non, j'ai soutenu une personne en qui j'ai entière confiance,
reste... Non, ce que je veux ici montrer du doigt, sincèrement.
Oui.
Un intellectuel algéro-canadien,
oui.
Il doit être également sensible à ce qui se passe en Algérie.
Bien
parce
sûr.
Qu'il y a deux semaines, sincèrement, moi, j'ai été choqué par les propos du représentant du FLN. Et je parle à titre personnel, parce que moi, je ne suis pas affilié à un quelconque parti.
Moi non plus.
Oui, sûrement. Donc, c'est-à-dire avec vos positions, c'est difficile d'être affilié à un parti quelconque.
Oui.
Donc, pour ce qui est du NEPAD, peut-être vous êtes d'accord avec moi.
Mais d'accord dans quel sens?
Dans le sens que on a un problème de corruption en Algérie.
Oui, mais quel rapport vous faites entre le NEPAD et la corruption?
Oui. Non, mais tout à l'heure, vous avez parlé de la corruption ici en général, c'est-à-dire de... Il me semble que vous avez parlé de la corruption, mais vos positions, vous critiquez la corruption, bien sûr.
Mais bien entendu, oui, non, j'ai parlé tout à l'heure du pouvoir financier qui est un pouvoir de traficotage.
Oui, je suis d'accord avec
vous. D'argent virtuel, oui.
Oui, mais c'est des problèmes qu'on a chez nous également.
Mais bien entendu.
Il y a des oligarques qui sont arrivés à des pouvoirs immenses en Algérie. D'accord.
Oui.
Qui arrivent à mettre des journalistes, notamment Del Watan, dans les prisons algériennes. D'accord. Vous êtes d'accord avec moi? C'est ce genre de choses que nous, en tant qu'Algéro-Canadiens, on doit montrer du doigt, même en dehors de l'Algérie. Parce que ce qui s'est passé dans le studio de la radio il y a deux semaines, pour moi, ça a été vraiment un choc.
Je suis désolé, je ne sais pas à quoi vous faites allusion.
Je fais allusion, c'est-à-dire au passage du représentant du FLN qui nous a vraiment servi des inepties, carrément, sur le système algérien, comme quoi tout est voulu, tout ce qui se passe en Algérie, c'est des coups de génie du président, notamment l'opacité. L'opacité, c'est voulu par le régime. C'est des choses vraiment qu'on ne devrait pas entendre, sincèrement, dans un cadre comme le nôtre.
Bon, écoutez...
En tout cas, c'est ce que je tenais à dire, vraiment. Mais je tiens à souligner émission, c'est pas des griefs que j'ai, sincèrement. Parce que vraiment, je respecte ce que vous faites.
Merci beaucoup, mais je peux commenter un petit peu si vous voulez.
Oui, je vous en prie.
Bon, je n'ai pas suivi ni écouté ce à quoi vous faites allusion, ce qui s'est passé dans le studio ou pas, j'en ai aucune idée. Mais ce qui est sûr, c'est que je suis connu pour ne pas être un adepte de la langue de bois. Donc, ça c'est clair. Je dis ce que je pense comme je le pense et ce que je crois penser en l'ayant étudié et essayant de comprendre. C'est clair que la corruption est un problème énormissime et pas juste en Algérie. Mais il faut aussi savoir que s'il y a de la corruption, c'est qu'il y a des corrupteurs.
Ouais, bien sûr.
Alors, l'un des grands problèmes, c'est que ça aussi, c'est mondialisé. S'il y a de la corruption en Algérie, au Maroc, ailleurs, etc., il y a par ailleurs des gens qui leur permettent d'être corrompus. J'ai eu un débat avec une chef économiste d'une des grandes banques du Canada il y a pas très longtemps à la Radio-Canada. Et on parlait des pays du tiers-monde et de leurs problèmes, et cette chef économiste m'a dit, mais écoutez, les problèmes des pays du tiers-monde ne sont pas des problèmes économiques, ce sont des problèmes politiques. Et je lui dis, dans quel sens? Elle me dit, dans le sens où leurs régimes sont corrompus. Et je lui dis, oui, mais madame, votre propre banque, combien de comptes a-t-elle qui sont alimentés par des messieurs qui se nomment Bomboutou, qui se nomment Bougamé, qui se nommaient Bokassa, qui se nommaient Hassan II, si vous fermiez tous ces comptes, eh bien peut-être que moins d'argent sortirait de ces pays-là pour aller ailleurs et servirait à ces pays. Donc vous voyez, là, la corruption, il faut pas...
Je suis d'accord, je suis amplement d'accord avec vous. C'est des choses qu'on peut lire également dans le journal Alternative.
Le
numéro d'Alternative, il a parlé notamment de ça, c'est-à-dire les entreprises canadiennes, comment elles corrompent, elles arrivent à corrompre des unitaires en Afrique.
Saïd, il y a d'autres auditeurs qui attendent. Allô, Saïd.
Qu'est-ce que vous faites du Népad?
Saïd.
Oui.
La question est.
C'est ça ma question.
Ok, très bien. Alors, donc on va prendre la question et je prendrai d'autres questions. Bah, professeur Actou va répondre.
Je commenterai sur le Népal après.
Très très bien. Et avec Sarah, merci beaucoup.
En tout cas, je vous remercie beaucoup.
Hein. Merci. On va donc un autre appel à lui. Bonsoir, Nasser.
Oui, bonsoir.
Oui, vous êtes sur les ondes.
J'aimerais poser deux questions à monsieur Omar Actou, si vous le permet.
Faut-il.
Oui.
La première question, c'est concernant l'union du Maghreb arabe.
Oui.
Par rapport au problème du Sahara occidental, est-ce qu'il n'y a pas des gens éclairés, que ce soit au Maroc ou en Algérie, pour que la question du Sahara occidental se débloque? Est-ce que ça vaut la peine qu'on reste bloqué, que au moment où on assiste au rassemblement de tout genre avec l'Union européenne, avec l'ALENA, avec toutes sortes de rassemblements, pour que le Sahara occidental bloque le développement des peuples du Maghreb arabe? Ça, c'est ma première question. Est-ce que financièrement, puisque lui est un spécialiste de la finance, est-ce qu'il n'y a pas des gens éclairés qui peuvent conseiller, par exemple, aux responsables, aux décideurs politiques algériens et marocains, de leur éclairer cette question? Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que reste bloqué? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question aussi, c'est la même chose, mais concernant par rapport aux séparatistes de Québec. Par rapport au Québec, est-ce que ça vaut la peine que le Québec se sépare du reste du Canada, financièrement et économiquement? Ou est-ce que ça vaut la peine que le Québec reste au Canada, toujours du point de vue financièrement et économiquement? C'est deux questions que j'aimerais qu'il nous éclaircisse son point de vue, le professeur Omar Actou.
Très bien.
Merci beaucoup. Donc je prendrai un autre appel aussi. Allez, bonsoir. Shkoun Maya.
À la tonalité.
Ok. Allô, oui, bonsoir.
Allô.
Oui, Belkacem.
Oui, bonsoir Lamine. Bonsoir Samir et à monsieur Actou.
Bonsoir.
Et à tous les auditeurs et auditrices. Ma question, j'ai deux questions à poser. Je ne comprends pas, malgré toutes les crises économiques de la Maison Blanche où il y a les faucons de Bush et tout, et que le peuple américain croit aux conservateurs jusqu'à présent, qui sont en train malheureusement de mêler les crises dans tous les pays du monde. Par exemple, le blé où on voit en Égypte, vraiment, c'est pour acheter du pain, c'est à des ratios et tout. Et je voudrais parler de comment ils continuent à ingérer dans les pays comme le monde arabe et tout. Dernièrement, le sommet arabe, là, ils ont pu essayer de diviser le monde arabe par les alliés des Amériques des Américains plutôt, comme l'Égypte, l'Arabie Saoudite, la Jordanie et tout. Et ma question aussi pour l'Algérie, là, je viens d'Algérie, mais je comprends rien. Quand le pétrole, il était à 9 dollars le baril, les Algériens, ils vivaient mieux qu'il est à 109 dollars le baril. Et je comprends pas aussi, l'Algérie a emprunté 5 milliards de dollars de la Belgique et elle a 100 milliards de dollars dans les caisses, dans les banques américaines, soi-disant pour le taux de 4% d'intérêt. Donc c'est ça mes questions pour monsieur le professeur.
Merci beaucoup Boulkassim. Donc nous allons revenir avec notre invité, mais avant je voudrais quand même faire un commentaire par rapport à ce que Saïd a dit pour l'émission qu'il y a 2 semaines. Je pense que lors de cette émission il y avait 2 personnes qui étaient présentes, 2 personnes qui avaient des avis contradictoires. Donc Mohamed Larbi Zouaimia qui était très critique vis-à-vis donc du bilan du président de la République algérienne. Il y avait monsieur Rachid Della qui était représentant du FLN qui pour lui, le bilan est positif. Et je pense que l'objectif, c'est de faire avancer le débat à travers des débats contradictoires, constructifs. Et l'objectif, à mon avis, il a été atteint. Et je serai contre d'interdire la parole avec des gens avec qui je ne suis pas d'accord. Et de loin, j'autoriserai un auditeur de le faire. Donc, les personnes qui sont venues au studio n'étaient pas en désaccord, Et des avis contradictoires ils ont été présentés. Je pense pas prendre une pause publicitaire, non, une pause musicale. On va aller directement au professeur Omar Aktouf. Nous avons une liste de questions. Il y a le NEPAD, votre commentaire par rapport au NEPAD.
Oui.
Il y a, bon, on ira.
Alors, on y va une par une.
Oui, une par une. Oui.
Alors, mon commentaire par rapport au NEPAD. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est le nouveau partenariat développement économique, c'est ça
de l'Afrique.
C'est ça. Oui, de l'Afrique, ok. Le NEPAD, si on regarde ce qu'il y a dedans, moi j'avais lu les attendus de ce projet, c'est le marché, c'est la privatisation, c'est les investissements extérieurs, c'est attirer les investisseurs extérieurs, c'est attirer les multinationales, c'est tout remettre entre les mains du marché et du privé pour tout régler. Eh bien non, ça ne marche pas. Le NEPAD, c'est encore une fois une répétition des litanies et des slogans néolibéraux qu'on connaît depuis longtemps. Et ça ne marchera pas, la preuve, ça ne marche pas et ça ne donnera rien. Donc non, pas du tout, je n'y crois pas et ça ne donnera absolument rien, ce nouveau partenariat pour le développement économique de l'Afrique. Ce n'est rien d'autre que des répétitions de choses déjà connues et ça ne donnera rien.
La question de l'UMA, de l'Union du Grand Maghreb et la question du Sahara occidental.
Alors, l'Union du Maghreb, je suis évidemment un grand partisan de ça, si on pouvait la faire. Mais malheureusement, comme je l'ai déjà dit, on a entre nous, les 5 pays du Maghreb, qu'à peu près 4% d'échanges entre nous. 96% de nos échanges se font avec l'Europe, avec les États-Unis, avec d'autres pays. C'est une catastrophe. Mais une union, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme l'Union européenne par exemple, ça se fait sur le temps, ça se fait sur la longueur, ça se fait sur la patience, ça se fait sur des pans par pans. Si on regarde l'Europe par exemple, eh bien ça a commencé d'abord après la Deuxième Guerre mondiale. Ça a commencé d'abord par des traités d'échanges au niveau culturel. Ça a continué par des traités au niveau d'alliances et d'officines, d'agences, d'associations communes comme Framatome, comme les agences de l'acier, etc. Et puis petit à petit, nous, il faudrait qu'on commence par ça, mais encore faudrait-il que nous ayons des États qui fassent ces pans, ces échanges, pan par pan, d'État à État. Mais malheureusement, dans nos pays à nous, la pérennité du pouvoir entre les mêmes mains ou les mêmes intérêts ou les mêmes groupes fait que l'État États où les États deviennent des affaires personnelles ou deviennent des relations de type personnel ou personnalisé. Alors on a par exemple bon la pérennité, ce qui s'est passé entre, disons, je sais pas, pour prendre un exemple, la Libye et le Maroc, le colonel Kadhafi à l'époque et le roi Hassan II à l'époque, paix à son âme, et bien c'était des gens qui pouvaient pas se voir, qui pouvaient pas se parler, qui s'insultaient par radio interposée et télévision interposée. Alors comment voulez-vous que ces deux pays qui se trouvent à l'un à l'extrémité et l'autre au milieu de ces pays du Maghreb, comment voulez-vous que, ayant des relations de chat et de souris et d'ennemis beaucoup plus que d'amis ou de gens qui veulent coopérer, comment voulez-vous que l'union du Maghreb se fasse? Alors voilà le problème que nous avons, c'est cette personnalisation du pouvoir, et donc ça devient des gens qui ne sont pas d'accord entre eux, ou qui ne veulent pas se sentir, ou qui, etc., qui fait que nous ne pouvons pas avoir des États qui font des échanges et des traités, des négociations vraiment d'État à État. Donc c'est des personnes qui ne veulent pas sentir d'autres personnes et qui ferment la frontière du pays aux autres pays. Alors que nos peuples s'aiment, je veux dire, le peuple algérien aime le peuple tunisien, il n'y a pas de problème entre les peuples, le peuple marocain n'a rien contre le peuple algérien, etc. Alors qu'il faudrait qu'on sorte de cette personnalisation du pouvoir, d'abord, pour ça il faudrait que ça soit démocratisé, et pour vraiment arriver à une démocratie, je ne fais pas référence à la démocratie américaine, ça n'a rien à voir, c'est autre chose, moi je fais beaucoup plus référence aux démocraties de genre Suède, Norvège, Allemagne, etc., donc des démocraties avec des... un pluripartisme basé sur des modes de scrutin proportionnels, etc., qui permettent une très grande variété de représentation dans le pouvoir politique, ce qui fait que les écologistes, par exemple, ont une très grande influence depuis très longtemps dans les pays scandinaves, notamment, et en Allemagne, ce qui n'est pas le cas des autres pays. Alors c'est ça que je souhaite pour nos pays. Et ensuite, donc, une démocratie économique, c'est-à-dire une plus grande redistribution des richesses. Et ça passe par le fait que nos pays et nos régimes soient moins soumis au dictat des multinationales et des pays qui envoient leurs multinationales chez nous. Si je pense par exemple à l'Algérie, je sais pas, le ministre de l'école de l'énergie, c'est le même depuis 15 ans, si j'ai bonne mémoire.
Non, depuis Bouteflika, depuis.
Bon, donc il y a plusieurs gouvernements, il y a plusieurs premiers ministres qui sont passés, mais tous les ministres presque ont changé, mais comme par hasard, celui de l'énergie, il bouge pas. Alors c'est dans l'intérêt de qui, ça? Donc c'est ce genre de questions qu'il faut se poser.
Oui. Avant de continuer avec les questions, il y a un auditeur qui attend depuis tout à l'heure, donc je vais juste le prendre rapidement et on va revenir à la réponse aux questions. Allô, oui, bonsoir. Allô. Allô, allô.
Non. Ah, il a raté sa chance.
Oui, il a raté sa chance. Je rappelle que ce soir à Taxi Maghreb, nous recevons professeur Omar Aktoub, professeur à HEC. Monsieur Omar Aktoub donnera une conférence le jeudi prochain à partir de midi, donc jeudi 3 avril à partir de midi. Amphithéâtre IBM à HEC, c'est au 3000 Côte Sainte-Catherine. Et on revient aux réponses.
L'auditeur, il peut venir assister à la conférence dans ce cas.
Oui, exactement. S'il a raté l'appel, il pourra venir à la conférence. Prochaine question, M. Omar Aktoub, qui a été posée, c'est la question de la souveraineté du Québec. Bon, il y a ceux qui l'appellent séparation et il y a ceux qui l'appellent souveraineté. Entre les deux, où est-ce qu'il se situe, professeur Omar Aktoub?
Je suis en tant qu'Algérien, j'ai contribué même très 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 jeune à la lutte de libération, donc je suis viscéralement pour le droit à la liberté des peuples, tout peuple qui et c'est inscrit d'ailleurs dans la charte de l'ONU, etc., tout peuple qui aspire à l'autonomie et à la liberté, c'est un droit inaliénable. Bon, mais il faut voir la situation du Québec. Je suis souverainiste, ça c'est clair. Donc, je mets tout de suite mes cartes sur la table. Mais je suis souverainiste dans le sens où nous devons d'abord poser la question, quel pays voulons-nous? Quel Québec voulons-nous? Est-ce que nous voulons un Québec de type États-Unis? Est-ce que nous voulons un Québec où il y aura 5 Bill Gates et 16 millions de personnes, ou je sais pas, 18 millions de personnes, ou 25, on est 25 millions à peu près, c'est ça?
Au Québec, c'est
ça? Non, non, je parle du Canada.
Ah, 30 millions, disons.
30 millions, et au Québec, on est 8 millions à peu près, oui. C'est ça?
C'est
7,5, bon. Donc, qu'est-ce qu'on veut? 5 Bill Gates, et 7 millions, et etc., et 400 000 Québécois qui vivent dans des conditions précaires. Est-ce qu'on veut un Québec de type Suède, de type Norvège, où le pouvoir est vraiment un pouvoir de la société civile, un pouvoir politique et non pas un pouvoir corporatif, comme c'est le cas aujourd'hui au Québec et au Canada et aux États-Unis. Le pouvoir corporatif, c'est le pouvoir de l'argent. Et le pouvoir de l'argent, c'est une dictature. Alors si on doit se soumettre à la dictature de l'argent sous prétexte de démocratie, moi je dis que la dictature de l'argent, ce n'est pas mieux que la dictature de l'idéologie communiste ou de n'importe quoi. Non, le Québec souverain, oui, mais un Québec souverain qui a d'abord, avant la souveraineté, avant la déclaration de souveraineté, établi clairement, à partir d'une assemblée constituante, une constitution de ce que sera ce Québec une fois souverain. Si ce Québec une fois souverain, c'est le 51e État des États-Unis, moi je n'en veux pas. Je préfère qu'on reste comme on est. Si ce Québec souverain, c'est un Québec complètement soumis aux aléas des multinationales, de l'argent, etc., et puis on fait la souveraineté, et après on pensera à quel projet social on va établir, eh bien non, c'est sûr qu'on sera les otages de l'argent, et qu'on sera tout de suite, si on sort de la mainmise, ou si vous voulez, de l'influence, ou de la nécessité d'échanges économiques, etc., avec le Canada de l'Ouest, il est clair qu'on va tomber directement et totalement sous le contrôle des États-Unis. Alors voilà, donc pour me résumer, souverainiste, oui, mais souverainiste avec, au préalable, un projet social clairement défini et un projet social totalement différent, radicalement différent et coupé du modèle nord-américain.
Dernière question donc des auditeurs, c'est la question de la situation économique en Algérie. Beaucoup de personnes qui visitent l'Algérie, il y a beaucoup de chantiers, oui, mais il y a beaucoup de misère aussi. Oui. Il y a beaucoup de chômage avec un prix du pétrole qui dépasse les 100 dollars.
Oui.
Comment expliquer cette situation?
Écoutez, un pays, une économie, un équilibre économique se construit sur des bases institutionnelles, sur des bases d'infrastructures, ce qu'on appelle les capacités installées de production. Et ça, c'est dès le départ. Donc, si depuis 1965, ou depuis 1962, disons, bon, je sais pas pourquoi j'ai dit 65, je confonds 5 juillet et 62. Donc, si depuis 1962, les bases institutionnelles, c'est-à-dire les institutions économiques, les institutions politiques, les institutions locales, les institutions régionales, les institutions de la société civile qui dirigent, qui guident, qui prennent en main la tâche de mettre en place l'installation de capacités de production et de forces de production qui, petit à petit, avec l'argent qui rentre, du pétrole, de l'hydrocarbure, etc., petit à petit construit les bases de vie de l'Algérie et de maintien d'un certain standing de vie. Bon, alors ces bases-là n'ont pas été faites, on sait très bien pourquoi. L'agriculture a été sacrifiée pour une industrialisation galopante qui était mégalomaniaque, et on a abouti donc à ce que, dans les années 80, le paysan moyen algérien était âgé de 60 ans. Donc on était complètement dépendant sur le plan alimentaire des importations extérieures de manière catastrophique. Et puis ajouter à ça l'absence d'infrastructures, l'absence de capacité installée de production qui colle aux réalités, aux nécessités, aux besoins régionaux, parce qu'on a on a beaucoup plus misé sur les grands conglomérats, sur les grands complexes comme le Hadjar, comme Azreux et tout ça. Eh bien aujourd'hui, que le pétrole, que le baril de pétrole vaille $100 ou qu'il vaille $1000, si on n'a pas ces institutions, si on n'a pas ces capacités installées en Algérie, eh bien cet argent ne fait que circuler entre les banques et entre les institutions financières. À admettre que cet argent rentre vraiment en Algérie. Bon, ça c'est une autre question.
Je pense qu'on va prendre une petite pause musicale avant de revenir donc avec notre invité. Nous allons prendre une pause musicale, c'est une surprise pour nous et aussi pour notre invité, le grand chanteur maghrébin et marocain Abdelhadi Belkhiat sera à Montréal le 3 mai prochain. Donc notez bien, professeur Omar Aksouf, ce serait le 3 avril et Abdelhadi Belkhiat, ça va être
non, le 3 mai.
Oui, non, votre conférence est le 3 mai.
Ah oui, d'accord.
C'est 3 avril, mais Abdelhadi Belkhiat, ça va être le 3 mai. Mais ce qui est intéressant, ce que j'ai appris cette semaine, que il y a quand même une relation d'amitié entre les deux personnes et on laissera tout à l'heure monsieur Omar Aksouf nous parler de ça. Pas seulement une relation d'amitié, mais c'est que je laisserai tout à l'heure notre invité parler de ça. Donc on ira en musique avec Abdelhadi Belkhiat qui sera à Montréal, à l'Olympia de Montréal, le 3 mai prochain. Vous êtes bien à l'écoute de l'émission Taxi Maghreb. Une émission qui vous vient une semaine sur deux sur les ondes de Radio Centre-Ville au 102.3 FM. Animée par Lamine et Samir. Ce soir, nous avons le privilège de recevoir professeur Omar Aktouf. Je vous rappelle que professeur Omar Aktouf va donner une conférence jeudi prochain, 3 avril, à partir de midi, au HEC de Montréal, au 3000 Côte-Sainte-Catherine, amphithéâtre IBM. Nous écoutons actuellement Abdelhadi Belkhiat qui sera à Montréal le 3 mai prochain à l'Olympia de Montréal. Et comme je l'avais mentionné tout à l'heure, donc il y a quand même une relation d'amitié entre les deux personnes. Monsieur Omar Aktouf, est-ce que vous pouvez nous parler de cette amitié que j'ai découvert moi-même cette semaine?
Ah ben oui, mais c'est une longue, longue amitié. Mais on ne s'est pas vu depuis très longtemps, Abdel Khair et moi. Et là, on va se rater encore, parce que lui, il arrive le 3 mai, et moi, je passe tout le 3 mai au Brésil. Je travaille au Brésil tout le mois de mai. C'est bien dommage, parce que j'aurais bien voulu. Mais si quelqu'un le rencontre et lui parle, qu'il lui dise que Omar Aktouf lui fait bien ses amitiés.
C'est
mais
promis, c'est que, M. Omar.
Je l'ai connu, il était chauffeur d'une voiture d'une école dans le quartier Akari, qui est l'un des quartiers les plus pauvres qui était de Rabat. Et j'étais ami avec Ablaati Amna, qui était un grand musicien, qui est toujours, qui a été le chef d'orchestre de la RTM, de la radio-télévision du Maroc, parce que j'étais réfugié au Maroc pendant la guerre d'Algérie. Et Ablaati Amna et moi-même faisions de la musique. Et c'est nous qui avons initié Abdelhadi Belkhayat à la musique. Alors, il a commencé à chanter avec nous. Moi, je faisais de la percussion. Et mon ami Ablaati Amna, le luth. Et voilà, je pense que si Abdelhadi Belkhayat ne nous avait pas rencontrés, il ne serait pas chanteur aujourd'hui. C'est quel mystère du destin.
Donc Samé, je pense qu'on revient avec notre invité. Je prendrai un dernier appel rapidement avant de donner la parole pour les 10 minutes qui nous restent. Donc je prendrai l'appel. Allô, bonsoir, Shkoun Maya.
Bonsoir, c'est Monsieur Hussein.
Tfadal, oui Hussein.
Je voulais poser la question à Monsieur Omar Aktouf,
oui.
Puisqu'il est souverainiste.
Oui.
Est-ce qu'il est pour l'autonomie de la Kabylie?
Il n'y a pas de problème.
Tout ce que vous voulez dire. Autonomiste, plutôt souverainiste, il doit être, comment on appelle ça, autonomiste aussi.
Merci beaucoup pour la question. Hein. Donc, il y a une autre question qui s'est rajoutée. Vous pouvez répondre rapidement, Monsieur Aktouf, si vous voulez, à cette question.
Oui, bien entendu. Je garde mes principes totalement. Tout peuple a droit inaliénable à sa liberté, son autonomie, s'il le désire. Alors, la Kabylie étant un Amazir, moi je dirais pas juste la Kabylie, donc tous les Amazirs d'Afrique du Nord, si la majorité exprime le désir d'avoir une autonomie, il y a le droit le plus inaliénable, absolument.
Donc, professeur Omar Aktouf, là, vous allez être au Brésil au mois de mai, c'est
oui,
ça?
Oui.
Ok. Donc, vous êtes très actif dans la région. Et est-ce qu'on vous a fait appel dans les pays du Maghreb ou en Algérie ou au Maroc? Vous êtes ici depuis 30 ans. Est-ce qu'il y a eu des fois où on a utilisé votre expertise ou on vous a fait appel sur certains projets ou pour des conférences ou?
Non. Non. J'ai été invité par des associations comme l'Association algérienne des ressources humaines, par des entreprises spécifiquement, mais j'y ai été comme professeur d'HEC Montréal avec une équipe d'HEC Montréal,
okay.
Donc pas à titre personnel. J'ai fait des choses dans des entreprises comme ça, c'était des amis qui me connaissaient dans le temps et puis qui m'ont invité, mais le pouvoir en tant que tel, non, ni marocain, ni algérien, ni aucun pays arabe d'ailleurs. Pour vous dire, c'est assez étonnant et triste à la fois. Quand j'ai quitté l'Algérie en 1982, je maîtrisais parfaitement la langue arabe, écrite, parlée, etc. Je pouvais faire des conférences, depuis que je suis arrivé ici, j'ai été invité par des pays de toute langue et toutes sortes, et tellement par l'Amérique latine, énormément par l'Amérique. J'y suis pratiquement 4 mois par an, tous les ans. Et entre-temps, j'ai appris le portugais et l'espagnol. Alors, je peux faire des conférences au pied levé en espagnol sur n'importe quel sujet, en portugais sur n'importe quel sujet, mais vous me demandez de faire 4 phrases en arabe, je suis incapable. Je parle d'arabe classique,
oui,
bien
oui,
sûr,
oui.
D'arabe...
Que vous maîtrisez il y a 30 ans.
Que je maîtrisais avant de venir, absolument, parce qu'aucun pays arabe ne m'a traduit, aucun pays arabe ne m'invite, mais j'ai travaillé dans les pays arabes. Mais payé et mandaté, par exemple, par l'Agence de coopération internationale allemande. La Gaieté 7. La Gaieté 7 m'a fait beaucoup travailler au Maroc, m'a fait travailler en Tunisie.
Ils travaillent en Algérie actuellement, ils ont.
Oui, 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 absolument, oui, oui. Mais je n'ai pas travaillé pour la Gaieté 7 en Algérie. Ouais. J'ai travaillé pour la Gaieté 7 dans l'Afrique subsaharienne.
Dans l'environnement en général.
Et Tunisie-Maroc, oui, oui. L'ACDI, tiens, pour l'ACDI aussi. Mais jamais aucun pays arabe n'a traduit, à ma connaissance, aucun article de. Alors que les Allemands m'ont traduit, les Italiens, même les Chinois, Enfin, c'est dommage.
Le dernier sujet qu'on voudrait rapidement, parce qu'il nous reste après 5 minutes, traiter avec vous, c'est la question de la communauté maghrébine, la question de la communauté algérienne. Je sais que vous avez un discours universel, vous n'avez pas un discours communautaire, vous avez des principes qui vous guident, qui sont transcommunautaires, qui ne sont pas spécifiques à une communauté. Vous ne défendez pas l'intérêt d'une communauté, d'une région, d'un pays, mais vous défendez des principes. Oui. Mais par rapport à l'avenir de cette communauté, les dernières statistiques démontrent un taux de chômage très élevé, une discrimination systématique, que ce soit par rapport aux lois américaines. Vous savez qu'actuellement, au niveau de l'aéronautique, des lois imposent à des compagnies canadiennes, subventionnées des fois par les contribuables québécois et canadiens, à ne pas accepter des personnes qui sont nées sur des projets en particulier, qui sont nées dans des pays en particulier. Donc, beaucoup de défis d'intégration. D'après vous, est-ce que, et en même temps influencé par le modèle républicain, les Algériens, les Maghrébins en général, on est influencé par le modèle européen, on n'est pas très communautaire, on veut vraiment s'intégrer en réalité, et on est beaucoup de personnes qui réussissent s'éloignent de la communauté parce que pour eux, l'intégration passe par une insertion totale au sein de la société.
Oui.
D'après
oui.
vous, c'est quoi la solution pour notre communauté qui vit beaucoup de problèmes, des problèmes spécifiques, mais d'un autre côté, où on peut parler d'une élite qui s'éloigne de plus en plus cette communauté, avec peut-être à cause de valeurs universelles, à cause d'un discours universel, mais que cet éloignement fait en sorte que cette communauté se retrouve sans élite.
Oui, c'est vrai. Donc, vous avez raison. Ce problème est complexe. Mais depuis septembre 2001, les choses pour les conditions pour les arabo-musulmans et la communauté maghrébine n'ont fait qu'empirer. Mais il faut voir aussi que les autres migrants qui sont arrivés dans les années 40, 50, 60, 70 du siècle passé, l'immigration maghrébine a commencé vraiment à partir de 80 et 90, disons même les fin des années 90. Avant, il n'y en avait pas tellement. Et donc, il faut comprendre que les autres migrants qui sont arrivés avant nous, je sais pas, les Italiens, les Yougoslaves, les Irlandais, les Portugais, les Espagnols, les Grecs, tout ce que vous voudrez, sont arrivés grosso modo pendant la vague des 30 glorieuses, c'est-à-dire des 30-40 années qui ont suivi la Deuxième Guerre mondiale et qui étaient des années d'expansion économique. Donc quand ils arrivaient ici, ils trouvaient de l'emploi, et grâce à l'emploi, ils ont revenu, etc. Ils s'achetaient une petite maison, une petite voiture, et puis ils pouvaient s'intégrer. L'intégration commence d'abord par l'intégration économique. S'il n'y a pas d'intégration économique, l'intégration sociale et politique devient extrêmement problématique et difficile. Or, l'immigration maghrébine, par malchance, a eu deux grosses malchances. Et il est arrivé après les années 70 et même 80, donc après les 30 glorieuses, c'est-à-dire au moment où l'économie a commencé à retrécir, à devenir une peau de chagrin. Donc arrivé ici au moment où le Québec, le Canada, les États-Unis coupent les emplois, font des chômeurs, licencient, restructurent, font des réingénieries, etc. Ben pour les pauvres maghrébins qui arrivent, aussi diplômés soient-ils, aussi expérimentés soient-ils, eh bien les conditions sont extrêmement plus difficiles et différentes que les conditions qu'ont connues les Irlandais ou les Yougoslaves ou les Grecs qui sont arrivés une ou deux ou trois décennies avant. Deuxième grande malchance, c'est septembre 2001. Alors depuis septembre 2001, dès que vous vous appelez Mohamed Ben Couscous, eh bien je suis désolé, mais 9 portes sur 10 se ferment. Et je connais des amis qui ont fait l'expérience, qui avaient des CV absolument fabuleux de connaissances, d'expériences techniques internationales. Alors ils envoyaient, évidemment, ici heureusement on n'est pas obligé d'envoyer les photos comme dans certains pays européens, je crois qu'en Europe on demande la photo avec le CV, en France en tout cas, ici c'est pas le cas. Mais ils envoyaient par exemple Mohamed Ben Qaddour, eh bien il ne recevait aucune réponse. Le même CV, il met Daniel Robitaille et il reçoit 250 réponses pour une interview le lendemain.
Il y a eu même une affaire Marc Tremblay ici pour ça.
Oui, Kamel Battal qui est marocain
qui a changé en Marc Tremblay.
Oui, exactement.
C'est passé à la commission des droits de l'homme.
Voilà, oui, oui. Alors, 30% de taux de chômage pour la communauté maghrébine contre la moyenne est en dessous de 8% pour le Canada et le Québec, c'est un vrai scandale, c'est une discrimination caractérisée et je pense que les autorités canadiennes et les autorités québécoises doivent prendre ça très au sérieux parce qu'on ne peut pas marginaliser une communauté comme ça de façon aussi flagrante, c'est du profilage racial flagrant.